Salut, c'est Alex Burger. Vous écoutez Choc. Et puis, j'aime quasiment ça. Vite.
Parfait, ça, je pense.
Yeah, OK.
La 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 la. My God. Quelle année! Quelle année! Non, aucune réaction?
Ben, si.
Je suis encore en train de la digérer, en fait. C'était ça, mon. Ah. Tellement de choses.
Je suis Ellie Simpson et j'ai animé les Amazones jusqu'à présent dans ces 244 épisodes, incluant celui-ci et les épisodes perdus et, et tout ça. On a fait un épisode spécial aujourd'hui, revue de fin d'année. C'est un petit épisode bonbon là, qu'on s'offre parce que c'est la fin de session, c'est la fin de l'année. En tout cas, nous, on travaille dans les écoles. Tamara, entre autres, merci Tamara d'être avec moi aujourd'hui.
Hello!
Hello! La plupart des gens qui suivent notre épisode sur un fil RSS quelconque vont remarquer que on n'était pas là il y a deux semaines, mais on était tout à fait là. En fait, il fallait nous écouter live. Dû à un bug technique, cet épisode que nous avons enregistré il y a deux semaines sur Scott Pilgrim sort en même temps que celui-là.
L'épisode secret sur Scott Pilgrim.
Ouais, mais qui sera plus secret, qui va maintenant être public. Mais voilà. Donc, ça a été un épisode aussi où la diffusion a été plus rough. Mais je salue l'immense travail, le titanesque travail de Choc.ca pour pallier, en fait, à toutes ces moult et moult et moult situations. Félicitations à toute l'équipe pour cette année. Donc, vous êtes des champions championnes. Et en parlant de champions championnes... Ah. Il y a Amélie aussi qui est ici aujourd'hui.
Hello!
Allô, Amélie! Ah, quelle année!
Ah, quelle année!
Ah! Je t'ai dit. L'année de choc a commencé avec un dégât d'eau. Ou a fini avec un dégât d'eau. C'est un peu flou dans ma tête. Il y a eu un épisode de dégât d'eau. En fait, notre premier épisode de 2022... De 2023, je suis déjà dans le passé. En fait, c'est ça, c'est qu'on a fait un épisode, je crois, en novembre... en novembre, octobre l'année passée. Et il y a eu un immense dégât d'eau. Il y avait comme pluie à Montréal, une pluie diluvienne, torrentielle, qui avait coulé jusque dans les sous-sols de l'UQAM. Et j'ai fait l'émission en faisant squish, squish, squish. C'était intense. Et on est revenu, en fait, en onde, parce qu'il y avait comme plein de complications et tout ça. On est revenu en onde, donc, en 2023 avec un épisode. Le 21 février, en fait, que notre saison a commencé. Ça a été une petite saison. Mais depuis 2020, c'est des petites saisons. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais tu sais, depuis 2020, on a vieilli, on travaille, on a plus de responsabilités. Il y a beaucoup de choses qui s'empilent dans nos vies, j'imagine.
Il y a un peu de ça, puis il y a d'autres affaires. Écoute, la dépression.
C'est le bagage habituel.
Ouais, mais tu sais, on ne cachera pas que la pandémie a changé beaucoup de choses. Là. Comme, il y a bien du monde qui ont décidé... post-pandémie, de slacker un peu. Là.
Ouais, exact.
De pas nécessairement ne jamais être à la maison et d'être toujours dans sortie culturelle ou dans mille travails différents. Là.
Ouais, c'est ça. Mille projets bénévoles.
Oui.
Qui rendent ça bien compliqué. Mais c'est ça, c'est sûr que le modèle des Amazones, on en a parlé souvent hors d'onde. Je sais pas si on en a parlé en onde, mais c'est quand même un projet qu'on a commencé dans une toute autre réalité.
Oui.
C'était en octobre 2016. Je n'étais presque plus à l'école. Je dis presque. J'avais commencé une session à l'université en sortant du cégep, dans une autre université que l'UQAM. Puis c'est ça. On était dans notre best life de début de. Tu sais, soit les gens étaient au bac, à la maîtrise, les gens n'avaient pas beaucoup de travail à ce moment-là, commençaient parfois leur vie. Moi, je commençais ma vie professionnelle. Là, c'était, mm-hmm. c'était quand j'ai commencé les Amazones, je commençais ma première vraie job. Là. C'était cet équivalent-là. Puis là, on est rendu 8 ans plus tard et la vie n'est plus ce qu'elle était.
Oh non, définitivement plus.
Mais pas juste. Puis je voulais revenir sur certains épisodes, surtout parce que ça me faisait rire que Disney Dreamland Valley était notre premier épisode. Très bon épisode, by the way. Je salue Émilie Nantel qui était avec nous pour faire l'épisode. Mais la vie a changé beaucoup à cause, entre autres, le traitement culturel a changé. Le comportement des gens a changé. Comme tu dis très bien, Tamara, il y a eu certaines personnes ont moins été mobilisées par le culturel. Mais pourtant, on n'a jamais été autant à la maison, donc on aurait pu avoir écouté énormément de télévision et tout ça, mais il y a comme eu un décloisonnement, en fait, des services de streaming. Parce que quand on regarde nos épisodes, justement, de 2016, 2017, 2018, c'était énormément d'épisodes qui tournaient autour de séries Netflix. Netflix, ouais. C'était comme le seul service. Donc, on avait d'autres choses, tu sais, évidemment, des Game of Thrones de ce monde, puis des choses comme ça qui sortaient du modèle Netflix où on parlait de d'autres sujets aussi en lien avec le féminisme, tu sais, je pense entre autres à un épisode sur la représentation de femmes dans certaines œuvres culturelles et tout ça. Puis là, à un moment donné, on est comme, soit notre pensée féministe, moi, je crois que notre pensée féministe, je vais parler pour moi, a tellement évolué dans une certaine direction que là, ça devient super précis. Puis là, c'est comme, ben, est-ce que le modèle culturel pour parler du féminisme dont j'ai envie de parler passe maintenant par la culture pop? Ça, c'est une grande question que je me suis posée dans les dernières années. J'ai trouvé que au début, Hey, Chris, c'est une thérapie, cet épisode-là. Non, mais c'est vrai, c'est que j'ai trouvé que, mettons, au début, on était tout le temps à la célébration de la représentation.
C'est vrai.
C'était énormément ça qui revenait dans notre dans ce qu'on avait à dire. Puis à un moment donné, il y a vraiment eu comme un shift où est-ce que... je pense qu'on était beaucoup dans la... On critiquait que ça allait pas assez loin, si je sais ce que je veux dire. On le faisait avant aussi, mais on était beaucoup plus permissif, ouais. Je pense, quand on venait à ce micro-ci. Puis là, maintenant, c'est comme... Tout va pas assez loin, j'ai l'impression, pour où on est rendu dans notre radicalisme. Et en plus de ça, ben créer un épisode autour d'une série télé, avant, c'était facile. On regardait autour de nous les gens qui collaboraient à l'émission. Il y avait 7, 8, 10 personnes qui l'avaient vu.
Ouais.
Puis là, plus ça va, plus... Hey, je lève la main, je veux parler d'une série. Et personne ne l'a vu. Il y a comme... Il y a vraiment plus cette espèce de rapport-là à un lieu commun... facile de la culture pop.
Ben, il y a tellement de choix. Puis justement, tu le disais, le décloisonnement des plateformes, comme on peut regarder Hulu, on peut regarder HBO, on peut regarder tout. Fait que c'est normal que à quelque part, tu sais, on s'entend, on est toutes des personnes très différentes. Fait qu'on se rejoindra pas nécessairement dans les mêmes séries, dans les mêmes livres et tout. Mais ouais. Je sais pas ce que je m'en allais avec ce point-là. Je l'ai juste
highlighté. Non, mais c'est que... ça. C'est que l'offre... parce que l'offre était grande avant, mais les lieux où se retrouvaient, je pense, qui nous intéressaient en tant que personnes féministes avec une volonté de parler de culture pop, de geekness, d'œuvres culturelles de ce type-là, avant, n'existait que sur peu de plateformes, puis là, maintenant, elle est rendue un peu partout. Puis aussi, le fantastique super-héros n'est pas aussi à la mode qu'il l'a déjà été. Mm-hmm. J'ai vraiment l'impression que comme après la phase 3 de... Après justement, tu sais, la fin d'un Game of Thrones, après la fin d'une œuvre comme justement tu sais, la phase 3 de Marvel et tout ça, il y a vraiment eu comme une fatigue de ces thèmes-là. Puis je pense aussi que, moi, je vais en parler aussi encore une fois pour moi, c'est que mon intérêt culturel ne se retrouvait plus dans ces œuvres-là. Il y avait comme moins de nouveautés, moins d'intérêt vers des choses. C'est comme, je sais pas, là, moi, je n'ai même pas écouté dans la série Marvel. Là.
Moi, je t'avoue, j'ai une fatigue à l'heure actuelle. J'ai une fatigue sur les séries, j'ai une fatigue sur les jeux vidéo. J'ai beaucoup, énormément de fatigue et intellectuelle et juste physique de devoir comme me concentrer sur un écran et de voir ce qui se passe.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de choses que je trouve qu'on nous demande trop d'intention partout, d'attention partout, d'attraper nos oreilles partout, de « faut que tu regardes ça, faut que tu vois ça, faut que tu fasses ceci, faut que tu... » C'est quand même trop. Je suis à une période où j'ai besoin, au contraire, de revenir centrée sur moi-même, en fait, et de repasser à des médias qui sont plus doux, plus calmes.
Comme lesquels ?
Qui sont plus légers, ça va passer par énormément de lectures, ça va passer plus par juste passer du temps à écouter de la musique. Genre, ça fait énormément de temps, je me suis rendu compte, mon Dieu, juste m'asseoir à écouter un album et à rien faire de ma soirée. Ça faisait des années que je l'avais pas fait. Mais tu sais, c'est dur de venir et puis de dire, hey, on va parler musique aujourd'hui et de, il y a tellement de goûts partout aussi. Ça vient au même entre Deezer, Spotify, etc., etc., le nombre d'artistes qui existent. C'est quand même compliqué. Et puis j'ai quand même l'impression aussi que tout ce qui est débat au niveau, justement, le féminisme, ce genre de choses et autres, ça a quand même été tellement repris. Puis attention, je mets des gros mots là, entre guillemets, mainstream aujourd'hui, que t'es obligé en fait d'aller dans le détail et d'aller vraiment dans le plus de revendications et d'aller dans le plus de choses parce que sinon t'as juste comme un discours moot qui a été repris tellement par les films et les trucs du genre aujourd'hui que tu dis rien.
Puis c'est un peu ce que les œuvres culturelles font aussi, là. Je veux dire, reprendre des grands concepts que les gens crient depuis des années. Puis pourtant, il y a tellement de choses à dire parce que ça va tellement vite. C'est drôle parce que j'avais un cours cette session-ci où est-ce qu'on parlait des mouvements féministes. Et là, on parle souvent des vagues de féminisme. Donc, la première vague, la deuxième vague, la troisième vague. Et là, le prof devant la classe qui dit « Nous sommes maintenant dans la quatrième vague. » Puis j'ai fait « Oh! Une information que je ne savais pas. Je suis dans la quatrième vague. » En fait, je m'identifiais à la troisième vague jusqu'à ce que j'apprenne que la quatrième existait. Puis là, je regardais la définition et je suis comme « Non, maintenant, je suis dans la quatrième vague. » Mais la quatrième vague est une vague très axé sur le droit à l'identité, à l'auto-identification et tout ça. Dans la spécificité aussi, c'est dans cette vague-là aussi qu'on va être énormément dans le pro-travail du sexe, oui, le féminisme, mais le féminisme ne sera pas aux dépens de d'autres groupes, ne sera pas aux dépens des droits des personnes qui ne veulent pas s'identifier comme femmes. Il y a comme... Bref, là, je dis ça vite parce que je m'étais pas préparée, là. Puis je m'excuse, c'était pas un exposé, il y a pas de notes à prendre, puis tout ça, là. Mais c'est tout ça pour dire que ça aussi, ça rend les choses un peu plus compliquées pour adresser certaines choses. Puis aussi, quand on regarde un œuvre, que dans le fond, la raison pourquoi c'est féministe, c'est parce qu'il y a une bonne représentation de femmes, on est comme, mais encore.
Yep.
Mais tu sais, en même temps, à part de dire comme, hey, cette œuvre a un stamp of approval d'avoir été représentative, qu'est-ce qu'elle a à dire? Et un bon exemple de ça, c'est que cette année, on a parlé du film Barbie, qui avait eu cette vague de féminisme-là. C'était un vraiment bel épisode, en fait, là, je me rappelais. On l'a donc enregistré le 25 juillet de cette année, tout juste après la sortie. On avait rarement été autant dans l'actualité. Puis c'était un épisode, c'est ça, qui était funny, mais tu sais, qui était justement dans la vague de parler du fait que, ben, on a envie de parler de Barbie, qu'est-ce que Barbie représentait, qu'est-ce que c'est. Mais tu sais, représentait pas juste au niveau du féminisme, parce que tu sais, comme, est-ce que Barbie est une féministe, grande question qu'on avait abordée, vous retournerez à notre épisode, mais aussi qu'on avait abordé, tu sais, la culture de l'Internet. Moi, je parlais beaucoup à ce moment-là de cette espèce de hargne-là qu'on revoyait dans certains comportements, qu'on parlait. C'est drôle, au début des Amazons, où est-ce qu'on parlait, du concept qu'on va haïr certaines œuvres parce qu'elles sont identifiées à un groupe démographique de genre les jeunes femmes, là, tu sais, comme les jeunes filles, les jeunes femmes. Si c'est apprécié majoritairement par des jeunes filles et des jeunes femmes, cette œuvre n'est pas valide au niveau artistique. T'sais, c'était une critique qu'on avait fait au début de à quel point certaines œuvres qui sont considérées comme de la chick lit, la young adult fiction, Taylor Swift,
la K-pop.
Donc c'est ça, toutes ces œuvres là qui étaient identifiées aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes en général, avaient comme moins de crédibilité parce qu'elles visaient ce groupe là particulièrement. Puis c'est un débat que j'avais pas réentendu, mais que là, qu'avec Barbie, ça l'a comme... C'est revenu, là, tu sais, comme... Puis là, je l'entendais à la radio, là, les messieurs des radios d'État, là, qui disaient comme... ben là, moi, je vais aller voir Oppenheimer parce que ça, c'est un vrai film, Barbie. En tout cas, whatever.
Là. Sincèrement, là, la brochette, désolé du généralisme, la brochette de Monsieur Blanc, hétéro fâché, qui était comme, oh, c'est dégueulasse, Barbie. Genre Ben Shapiro, qui est en photo, pris en photo devant le poster avec, genre, des poupées Barbie, puis qui est fucking pissed. I live for that. J'étais tellement contente. Puis moi, je me souviens, Barbie, je suis allée le voir avec Ellie et avec d'autres amis. Genre, c'est sorti un jeudi soir, je pense. Moi, non, c'est pas vrai, on est allé un vendredi.
La journée de la sortie.
La journée de la sortie. Et moi, le lendemain matin, à genre 6 heures, je me levais pour partir en voyage. Puis j'étais comme, on y va le vendredi. C'est mon seul moment.
Oui, parce que tu t'en allais en Corée le lendemain.
Oui, je partais 2 semaines en Corée. Puis j'étais comme, je ne veux pas manquer ce milestone-là. Puis tu sais, comme, honnêtement, on savait que ça allait être big, mais avec Oppenheimer, on n'était pas sûr. Puis aujourd'hui que Barbie est comme un des meilleurs box-office de tous les temps, in your face, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme c'était très chill.
Puis si je peux me permettre aussi, pourquoi je crois que le film était bon. Encore une fois, là, tu vois, on est dans l'analyse beaucoup plus poussée que juste une question de représentativité, parce que au-delà de ça, c'est que je trouvais vraiment qu'il y avait comme un, c'est toute la direction artistique était tellement écœurante. Pour moi, c'est comme, c'est une œuvre complète, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, pas dans le sens œuvre totale, là, je vais pas rentrer dans ces grands mots-là, mais tu sais, dans le sens que, comme, on va pousser le concept à l'extrême, on va rentrer dans des, tu sais, les acteurs sont rentrés dans des mimiques, on jouait avec leur corps, on sentait le fait que c'était des poupées à certains moments.
Ben, les figurants et figurantes étaient des danseurs-danseuses parce qu'ils ont déjà d'emblée la prestance de se tenir autrement, qui donnait l'illusion, justement, de faire affaire avec des poupées. Puis toutes les messieurs se sont fait épiler à la cire parce que des poupées Barbie, monsieur, ça l'a pas de poils. Fait qu'ils étaient toutes, genre, épilées, là.
Ben voilà.
Genre, le concept est poussé tellement loin. Puis tu sais, la musique, la trame sonore est incroyable. La direction photo est géniale. Le scénario est vraiment bon. La narration d'Helen Mirren, c'est juste comme... C'est toutes ces petites choses-là qui s'accumulent, puis t'es comme... Oui.
Puis tu vois, c'est ça, je me rappelle que ce film-là, quand il avait été annoncé il y a plusieurs années, là, même, là, puis qu'on parlait que c'était à la Amy Schumer, puis tout ça, puis on dirait que j'avais aucun intérêt. Puis là, à un moment donné, j'entends comme, Barbie, OK, j'entends des affaires, je vois la bande-annonce, puis je fais comme, je suis hype. J'ai écouté cette bande-annonce-là, je sais pas combien de fois, là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, écouter une bande-annonce à répétition. La dernière fois, je pense que c'était The Batman.
La soirée que Ellie puis moi, on était chez elle, puis qu'on arrêtait pas d'écouter la bande-annonce, puis qu'on l'a montré, genre, à ton mari, en faisant comme, tu dois regarder ça. Puis on faisait juste le fixer pendant qu'il regardait le téléphone, puis il était comme, ça m'a l'air très bon. Oui!
Moi, Barbie, l'un des trucs que je retiens le plus, c'est j'aime beaucoup regarder sur YouTube Honest Trailer. Puis quand ils ont fait le Honest Trailer de Barbie, l'une des phrases que j'ai retenu le plus, c'est que c'était, grosso modo, parce que je sais pas les phrases exactes, mais que le film prouvait que les femmes aussi, elles aimaient les films d'humour avec énormément de choses à rire à l'intérieur et de l'humour intelligent, en fait.
Uh-huh.
Mais que les médias allaient juste retenir que, hey, il faut faire plus de films de jeux pour filles comme Polly Pocket et ce genre de choses.
Mais c'est un acteur qui a dit ça. C'est Randall Park, je pense, qui a dit « Tout le monde va voir le... à quel point Barbie, c'est génial, puis que c'est full apprécié, puis tout ce qu'on va retenir, c'est faites plus de jeux, de films de jouets, puis pas comme faites plus de films par et pour les femmes, genre.
Ou faites plus de films bien écrits, avec une direction artistique complète, faites plus
et
de
drôle.
Films... Parce que c'est pas le fait que c'était Barbie, c'était pas ça, c'est le fait que t'as pris un concept, puis que tu l'as bien modelé, puis que t'es allé au bout de ta démarche. Puis ça, peu importe, ça aurait été quoi le thème, du moment où la démarche est honnête, elle est complète, elle est réfléchie, elle est intelligente, c'est correct. T'sais, on est allé au bout de cette démarche-là. Puis c'est ça qui était bon dans Barbie, c'était pas le fait que c'était ça parlait de Barbie.
T'sais. Ben non. Hey, en 2007, ils ont fait le film des Bratz, là. C'était pas un reset culturel. Puis c'était très, très, très populaire, les Bratz.
On avait fait aussi des épisodes, là, je regarde, là, c'est drôle, parce que le deuxième épisode de notre année, en fait, c'est j'avais reçu Hermanie, on avait parlé de lutte, parce que c'était à l'aube de WrestleMania 2023, puis hey, on s'enligne vers 2024 avec comme, wow! Ça a pris beaucoup de place dans ma vie culturelle, la lutte, là, je te dirais, là. Le problème, c'est que j'en connais pas encore assez, mettons, pour dire comme... puis on a déjà le podcast, en fait, à choc.ca, qui parle de lutte, donc les Rois de la Reine. Je les salue. Mais voilà, c'est ça, ça a pris énormément de place, là, parce que juste la lutte, là, c'est genre 6 heures de télé par semaine. Mais je l'écoute en faisant autre chose. Donc, je vois Dreamlight Valley, je l'ai dit, là, mais c'est ça. Dreamlight Valley, qu'on a parlé en début, a sorti sur iOS Arcade, et là, maintenant, c'est chronophage au bout, c'est sorti au pire moment. Si au moins c'était sorti le 19 décembre, quand ma session d'école allait être finie, mais non! Mais non! Mais là, ça va, là, j'ai presque tout débloqué les biomes, là, ça s'en vient bien, là, j'ai comme runné le shit, là. Puis la version, parce que quand on en parlait, je jouais sur ma Switch et ça buguait que le tabarouette. Et sur iOS, aucun bug.
Ooh.
Aucun bug. En fait, il y a des bugs, mais le jeu ne crash pas.
Ouais, c'est ça le plus important.
C'est ça. Parce que là, c'est le fait que le jeu qui crashait en plein milieu des affaires, là, puis j'étais comme, crime.
Écoute, moi je regarde ma coloc qui est meilleure amie jouer tout le temps, à part sa vie là-dessus. La joie avec laquelle elle m'a montré son capybara.
Oui!
Capybara qui est notre animal fave dans notre gang d'amis. Oui. Puis j'aime juste la voir faire comme, regarde, j'ai un nouveau chandail. Puis elle montre ses trucs, puis je suis comme, c'est tellement cute. Je me sens vraiment comme un parent, là. Je comprends zéro c'est quoi qui se passe. But I'm all for it. Comme, tu peux m'en parler pendant 3 heures. Je vais faire, oh, ça a de l'air cool. Je vais te poser des questions de plus. C'est comme Minecraft. Je comprends pas c'est quoi, OK? Genre, à ce point-là, j'ai trop peur de demander c'est quoi. Fait que je suis juste comme,
Ben, en fait, t'as pas besoin de demander. T'as juste à aller écouter notre épisode là-dessus. On en a parlé pendant 1 heure de temps.
Ouh!
Fait que, mais tu vois, l'affaire qui était intéressante aussi, l'affaire qui me fait rire, c'est que depuis que je l'ai téléchargée, c'est toujours le même message d'avertissement quand ça charge. C'est toujours « Jouer sainement, il est recommandé de prendre des pauses durant une longue période de jeu. » Puis je suis comme « Mais obviously, ça marche pas! » Parce que comme vous avez ouvert le jeu... Parce qu'en plus, c'est que le jeu, quand je l'ai téléchargé, il était quand même déjà sa 2e ou 3e mise à jour, ajout de choses. Et là, depuis que je me suis reconnectée, ils ont ajouté un monde... En fait, j'avais pas touché depuis qu'il y avait un nouveau monde complet. Et là, je capote ma vie. Là, il y a tellement de stock, puis tout arrive en même temps. Ouais. C'est que contrairement à l'autre, où est-ce que, comme, mettons, ben, t'étais quasiment obligé d'arrêter un moment donné parce que t'avais plus rien à faire, mais là, comme, tout est en même temps, tout est là. Fait que c'est comme, ah, je peux pas avancer telle affaire parce qu'il faut que j'attende que les pierres repoussent, mais c'est pas grave, je peux avancer telle autre affaire, puis là, telle autre affaire, puis là, telle autre affaire, puis là, et puis ça ne finit plus. Fait que bref, très chronophage. Disponible donc sur Arcade iOS si vous voulez jouer sur votre téléphone. Le jeu ne crash pas, sinon disponible sur toutes les autres... sur plein d'autres affaires, là, PlayStation, Xbox, Switch. Pas Switch. Façon. Switch, ça bug trop, là. Fuck that. En plus, on n'a pas d'espace beaucoup sur une Switch, puis ça en prend tabarouette de l'espace. Ça prend autant d'espace que Animal Crossing. Animal Crossing, qui était un de nos épisodes aussi de cette semaine. Cette année, on a parlé beaucoup de jeux vidéo cette année. Je parlais de Dreamlight Valley. On a parlé aussi de... On a fait un épisode spécial sur suggestions du jeu vidéo. Avec Amélie. Ça, c'était vraiment un bel exercice parce qu'on avait fait. Là, on réécouterait aujourd'hui, puis ça aurait comme. Ça ferait bizarre parce que c'était comme. OK, là, on sort l'épisode. Vous avez quelques jours, voire quelques semaines, ça dépend de qu'est-ce qu'on vous conseille pour profiter de rabais immédiats. Mais ça nous a permis de parler de jeux qui étaient pas nécessairement des jeux récents, des jeux pas récents, mais comme. Il y avait des jeux qui étaient comme en spécial. Je me rappelle, je pense qu'il y avait comme XCOM 2 qui était comme 3$ sur Steam. Une affaire de fou, là. Ça avait comme pas rapport. Il y avait un jeu qu'un de nos amis nous avait recommandé, qui était 99 cents sur Steam. Bref, vous irez réécouter ça si vous cherchez des jeux, parce qu'on va parler un peu de trucs à faire durant le temps des fêtes bientôt. Si jamais ces jeux se retrouvent en spécial, je vous encourage à profiter de ça. On avait aussi un épisode de jeux vidéo. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer, pour l'Halloween, notre épisode d'Halloween, c'était Marie-Hélène Racine-Lacroix, où on a parlé de Baldur's Gate 3. Ce qui est dommage, c'est que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à Baldur's Gate 3 en prévision de cet épisode-là. Et j'ai pas vraiment eu le temps de me rasseoir pour continuer ma partie. Donc ça, c'est bien triste. Je compte faire beaucoup ça durant le temps des fêtes. Mais c'est ça, c'était une année très jeu vidéo-esque. Ah, parce qu'on est revenu aussi sur Animal Crossing 3 ans plus tard. On a parlé de notre rapport au jeu qui a changé depuis la pandémie. J'ai réinstallé Animal Crossing. J'ai rejoué beaucoup jusqu'à ce que je parte en voyage pendant 2 jours à l'extérieur de la ville. J'avais pas ma Switch. Puis là, ben, je vais pas retoucher depuis parce que fuck that. Mais je vais y retourner une fois de temps en temps. Au moins, c'est le fun parce qu'on avait dit, ce jeu-là, il est complet, il n'aura plus d'ajout, il est terminable.
Moi, c'est ma période, là. Période de Noël, c'est ma période Animal Crossing.
Ah ben voilà. Tu sais, on peut y retourner souvent. On a parlé de certaines séries télé, de Marvelous Mrs. Maisel, de l'excellent The Bear. On a parlé de One Piece, aussi de White Lotus. On a parlé aussi de Scott Pilgrim vs. The World. C'était notre épisode il y a deux semaines que, dans le fond, on va être diffusé en même temps que celui-là. Puis on a parlé aussi de l'excellente... En fait, j'ai vraiment aimé l'exercice avec toi, Amélie.
Ouais.
Puis j'aimerais ça recommencer un exercice similaire. Puis là... on va s'organiser d'avance, là. Parce qu'on a fait une rétrospective sur l'œuvre de Nicolas Cage.
Oui, c'était vraiment fun.
C'était vraiment cool. Puis j'ai envie de reprendre une autre personne puis de me replonger dans son œuvre puis qu'on fasse un exercice similaire. C'était vraiment cool. Beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça fait pas mal le tour, je crois, de nos épisodes parce que... c'est pas vrai. Le Benoît Blanc-verse.
Eh oui!
C'était notre autre épisode de ensuite ça va en 2022. Mais oui, le Benoît Blanc-verse, on a parlé de Knives Out et Glass Onion. Ça, c'est drôle en crise parce que quand on a fait cet épisode-là, OK, pas longtemps après, j'ai interviewé Édouard Tremblay de Farador et lui déteste à se confesser le réalisateur de ces films-là.
Rian Johnson.
Il le déteste et c'est fou parce que moi, je ressortais qu'on avait comme parlé de ça récemment, que je m'étais plongée là-dedans, que j'avais fait un whodunit qui était, selon moi, pas révolutionnaire, mais bien exécuté avec un personnage queer en ligne de front. C'était cool. C'était vraiment une belle... un beau moment, mais là, j'ai Édouard Tremblay qui me dit « C'est vraiment pas bon. » Mais vous pourrez retourner écouter notre épisode sur une autre chaîne, un autre poste que ce qui parlait de Donjons et Dragons. Mais voilà. C'était notre année amazonesque.
Ah ben, je suis étonnée. J'étais convaincue que c'était cette année qu'on avait parlé de l'or Olympus.
Ben non!
C'est la dernière fois que j'avais fait un épisode avec toi.
Vous êtes pas revenu.
Ça faisait un bout... Moi, je suis venue il y a deux semaines pour Scott Pilgrim. Puis avant ça... Je peux pas te dire c'est quand la dernière fois que je suis venue.
Tu vois, quand je te dis que les années blurent entre 2020 et 2023.
L'or Olympus, l'or Olympus.
Hey, l'or Olympus, là, si je peux faire un suivi là-dessus, ça reste dans mes recommandations ever. Parce que là, ils ont fini... Rachel Smythe, elle a fini le chapitre 2. Cette finale était incroyable. Genre, Ellie qui aime la lutte. J'avais l'impression de regarder un match de lutte très... théâtral et... En tout cas, c'était génial. Le chapitre 3 a commencé. Toujours très bon. Shout-out. Il y a un personnage qui est un mood. Oh, t'es-tu à jour dans L'Olympus?
Ouais, ouais, ouais.
Dionysos.
Oh, je l'aime tellement. Oh,
c'est un bébé, mais il a les meilleurs reaction shots dans tous les dessins dans lesquels il est. Oh my God, mais c'est comme... Si, mettons, vous avez déjà lu L'Or Olympus puis que pendant le temps des fêtes, vous avez beaucoup de temps et que vous voulez recommencer, c'est vraiment cool de voir l'évolution du dessin de Rachel Smythe et aussi l'évolution de comme son style narratif et tout ça. C'est tellement intéressant. Puis honnêtement, si vous vous y prenez comme pour le relire au complet en 2-3 jours, si vous faites des petits marathons, c'est faisable. Mais oh mon Dieu, je me sens à la maison quand je lis ça. Puis c'est toujours fun quand tu connais un peu la mythologie grecque, t'es comme bon, c'est quoi la prochaine affaire qui s'en vient? Oh, c'est bon!
Et pour te donner une idée, Amélie, l'épisode de l'Or Olympus, nous l'avons fait en le 10 mai 2022.
Ah ouais? Ah, ben flûte alors!
Oupsie!
Mais les années se suivent et se ressemblent.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu veux? Puis c'est ça a été... en fait, on avait parlé de plein d'affaires. Hey, c'est drôle parce que je regarde nos épisodes de 2022 parce qu'il s'est passé plein des affaires à un an, mais si on revenait encore plus loin. Parce que là, on avait parlé en septembre, donc le 27 septembre 2022, on avait parlé de Sandman.
Ouais.
Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils rentrent en production de la saison 2. Donc,
oh,
la saison aura lieu. Ouh. Ça, c'est yé. Solar Opposites qui a continué malgré le fait que, you know, Justin Rowland, c'est une marde. Mais ça, c'est pour une autre histoire. C'est pour un autre temps. Reparler de ces séries-là en l'absence de Justin Rowland, ça pourrait être un bon thème dans les prochaines dans les prochains épisodes. Mais là, on était dans la nostalgie, on était dans le profond, on était dans la rétrospection. Maintenant, le temps des fêtes. Un moment où est-ce qu'on va pouvoir peut-être relaxer un peu avant de recommencer un rythme de fou, prendre des résolutions qu'on va prendre soin de soi puis repasser une année vraiment fucking rushante. Qui sait? Mais pour s'aider, on peut quand même commencer justement. Je vous avais suggéré, en fait, hey, on pourrait faire des petites suggestions. J'ai beaucoup parlé. Je vais lancer la balle à quelqu'un d'autre. J'ai quelques petites suggestions d'écoute aussi. Mais Amélie?
OK. Alors, moi je sais pas pour vous, mais Noël, c'est la période de la romance. Hein? C'est la période des films Walmart.
Hallmark.
Exactement, mais même combat pour moi. C'est un lapsus révélateur. Mais donc, c'est ça. Donc, j'ai voulu, comme je disais, je regarde plus vraiment de séries en ce moment et les jeux vidéo sont un peu trop demandant pour mon cerveau. Donc, j'ai décidé de faire une petite liste de mangas, manhwas, webtoons, en fait, que je lis en ce moment.
Le deuxième mot que tu as dit, j'ai aucune idée, c'est quoi?
Alors, le manga, c'est le manga japonais. Le manhwa, c'est des mangas coréens. Et ensuite, tu as aussi le manhua, qui est comme les mangas, mais chinois.
Ah, OK.
Puis, et puis, donc, des webtoons que je lis, puis que j'aime, puis qui tournent autour de la romance. Mais encore une fois, des romances un peu compliquées, parce que... C'est ça, je suis comme ça.
Ah, le dessin, c'est le fun. Là.
Le dessin, c'est beau.
Moi, je pense que je veux juste en profiter parce que là, les gens, ils n'écoutent pas ça, anyway. Mais pas les gens, mais les gens de qui je vais parler n'écoutent pas l'émission. Parce que c'est ce qu'on a décidé d'offrir à notre famille, en fait. On offre à chacun de nos parents, on offre une bande dessinée. Mm. Puis ça fait du bien. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à arrêter de lire dans la vie, triste constat, mais... C'était vraiment difficile de recommencer à lire. Puis, ce qui m'a aidé, c'est vraiment la bande dessinée. Ouais. Parce que là, ça, je pouvais en lire comme 10 par semaine. Puis ça me dérangeait pas.
Ouais, c'est ça. Tu vois, là, moi, ces temps-ci, je suis à peu près à 1 à 3 mangas par jour.
Ben voilà.
À peu près. Puis, donc, c'est ça. J'ai fait une petite sélection de ceux que j'aime. Puis, dernièrement, je me suis mise à lire Veil de Kotéri, qui est édité par les éditions Noëve. C'est une histoire d'amour, comme toutes les histoires d'amour dont je vais parler. Puis dans celle-là, on suit en fait la relation entre une jeune fille aveugle qui s'enfuit de chez elle et d'un policier qui l'a ramassée dans la rue, en fait, et puis qui l'aide. Et ça se passe à une époque qui est comme... Moi, je mets ça dans les années 30, mais qui n'est jamais vraiment citée, dans une ville qui n'est jamais vraiment citée, parce que tout ça, c'est juste comme un décor sur la dévotion qu'ils ont l'un pour l'autre. Puis ce qui est vraiment beau dans ce manga, c'est... En dehors déjà du dessin, le dessin est captivant, c'est magnifique, c'est plein de détails, c'est beaucoup de choses à regarder. Il faut prendre son temps pour voir les pages. C'est coloré. C'est un manga avec des pages colorées à l'intérieur. Il est un peu plus cher qu'un manga en général, parce que tu vas payer à peu près 15 piastres. Celui-là, il va être plus dans les 20, 21. Mais c'est très, très beau. Et surtout, ce qui est beau, c'est leur relation qui est vraiment comme des fois narrée avec le point de vue de elle. Où les dessins seront comme noirs, parce que comme elle ne voit rien, tu es juste beaucoup dans ce qu'elle entend, dans ce qu'elle ressent, ce genre de choses. Ou lui qui va être beaucoup dans la tendresse, dans le gestuel, qui va lui mettre genre du vernis sur ses doigts, qui va l'aider à se maquiller le matin, qui va l'aider à choisir ses vêtements, ce genre de choses. Et des fois sur les objets qui sont autour d'eux, où tu vas avoir la chaise qui parle avec la tasse de thé en mode « T'as vu aujourd'hui comment il a été doux avec elle ?» Elle lui présentait sa tasse dans sa main et la chaleur qu'elle a ressentie et ce genre de choses. Et c'est toute cette dévotion qu'ils ont l'un pour l'autre qui est vraiment le centre du manga. C'est, à l'heure actuelle, il y a 4 tomes qui sont sortis. Je crois que le tome 5 devrait sortir. Puis pour moi, c'est un petit bonbon. Là. C'est une relation qui est vraiment dans la poésie, dans la douceur. C'est comme, tu savoures ça tout doucement, puis t'es comme...
Il était obligé d'être une police. Moi, j'ai décroché à ce moment-là.
Ouais, c'est aussi le...
Est-ce qu'il résout des meurtres à côté, genre?
Non, tu sais, c'est genre... Le seul moment où tu vois faire son job, c'est juste parce qu'il fait une patrouille dans la ville et qu'il ramasse la petite vieille qui a fait tomber son sac ou des trucs du genre, tu vois. C'est comme...
Oh, c'est un cadet, dans le fond.
C'est comme... Tu sais, c'est comme une police pacifique qui n'existe pas.
Ah, d'accord. Ah, ben, c'est correct. Les objets se parlent... C'est chill. Mais bon, c'est bon.
C'est ça. Comme je te dis, ça se passe à une époque où tu ne sais pas réellement dans un lieu que tu ne connais pas réellement.
Je comprends.
je vais continuer tant que je suis encore sur...
Oui, puis je m'excuse, c'était pas pour ridiculiser.
Non, il n'y a pas de souci.
Ça m'a juste fait rire parce que... Non, mais je voulais juste être dans l'immédiateté, comme on dirait en intervention, parce que ça a vraiment fait genre, le gars, il est police, puis à partir de là, j'ai fait « Non! » Mais oui, continue.
Le deuxième dont je vais parler, c'est pareil, c'est ce qui m'a captivée quand j'ai commencé celui-là, c'était la beauté du dessin. C'est un manga qui est disponible sur Webtoon. Ça s'appelle « Like Wind on a Dry Branch ». En français aussi, le titre est en anglais. C'est fait par... Alors, je vais écorcher les noms des auteurs et je m'en excuse, mais Dal Saiwal et Hwa-hum, qui sont donc des auteurs coréens. C'est adapté d'un roman du même nom qui est disponible sur Yonder. C'est une romance dans un monde fantaisiste qui est extrêmement dark.
Okay.
L'histoire démarre donc avec l'héroïne Rieta Tristi, qui est condamnée à mort. En fait, qui est sacrifiée, plus littéralement. Elle est sacrifiée à être enterrée vivante avec le seigneur de la ville, parce que c'est la dernière chose qu'il a réclamée, après qu'elle... Elle ait perdu son mari à la peste et que sa fille ait été kidnappée et vendue à des vendeurs d'esclaves.
Cette madame-là, peut-elle avoir un break à un moment donné?
Elle est sauvée in extremis par...
Elle va trouver l'amour
avec le seigneur.
Elle est sauvée in extremis par un prince déchu qui l'achète et qui l'amène dans son harem.
Hey, c'est genre les infortunes de la Belle au bois dormant-ish. Là,
à chaque mot
Rice.
Que tu dis, je suis comme oh, « Yes! Oh shit! Oh yes! Oh shit! »
Plot twist, le harem, c'est en fait une couverture où les femmes guerrières sont pour protéger le prince.
Ok, là tu m'as eu.
Ok.
Là je suis dedans.
Moi aussi, la première fois que je les ai vues, où elles étaient avec leurs armes à défendre contre une horde de démons qui voulaient le tuer, j'étais en mode « Oh shit, je les aime! »
Mais pourquoi ils défendent le prince?
Défendre le prince parce que, comme j'ai dit, c'est un prince déchu qui a tué son frère après que... Son demi-frère, plus exactement. Après que celui-ci ait insulté sa mère qui venait de mourir. Et depuis, l'impératrice du royaume essaie de le tuer par vengeance. Donc ils passent leur temps à scheme l'un contre l'autre.
Ok, là, lui, dans le fond, il sauve des esclaves. Pour dire « je t'ai sauvé » puis en échange, deviens mon garde du corps personnel.
Il leur laisse le choix. Il les sauve, il les ramène dans sa ville et puis après il est comme « soit je te donne de l'argent puis je t'installe dans la ville puis tu fais ta vie. Soit tu rentres à mon service. » Et Rieta, en fait, c'est une magicienne qui a des capacités de soins. Et Rieta, en fait, tout le long de l'histoire, c'est un personnage qui est dans le deuil et qui essaie de mourir par tous les moyens possibles.
Mmh.
Et qui accepte de venir le protéger. Et lui, il passe son temps à être en mode « Non, mais ce que tu fais, c'est du suicide et je vais t'empêcher de le faire. » Et leur histoire commence à évoluer là-dessus. Et petit à petit, il lui redonne le goût de vivre tout en laissant le deuil de son mari se faire et ce genre de choses. C'est très, très beau. C'est magnifique à lire. C'est aussi extrêmement triste et poignant. Je passe ma vie à pleurer devant et être en mode « C'est tellement beau et triste à la fois. » Bref, je recommande, mais prévois les mouchoirs. Puis, pour finir.
Dis quelque chose de léger le 24 au soir.
Mais justement!
Une petite lecture si commune,
voulez,
là.
Si vous voulez du léger, je continue sur un autre manga qui est sorti, qui est mon préféré cette année, qui s'appelle Punch Drunk Love. C'est écrit par Moscarito. Moscarito, qui est une autrice coréenne, qui écrit énormément de boys love, qui sont généralement assez légers, avec beaucoup d'humour, beaucoup de problèmes, mais liés à la société asiatique qui est encore très, très, très en arrière, si je puis dire. Donc, c'est écrit par elle et c'est dessiné par Okedong. C'est disponible sur les zines. C'est l'histoire de, grosso modo, d'un jeune homme très geek du nom de Seon-woo, qui est donc homosexuel, qui est un comptable avec des principes extrêmement rigides et avec une imagination débordante.
Ooh.
Et quand je dis une imagination débordante, je veux dire que le manga a énormément de sexe à l'intérieur, puis le gars, il a genre une pléthore de fantaisies sexuelles que, honnêtement, il écrit des fanfictions là, de 250 pages avec les trucs les plus vulgaires que tu puisses trouver. Et il est, comment dire, son modèle d'homme parfait, c'est le responsable des ressources humaines de son boulot, qui s'appelle Taemon. Jusqu'au jour où il découvre que...
Vous ne voyez
que...
pas, mais Tamara fait comme « Non! »
Pas les ressources humaines, non, non!
Non, non. Jusqu'au jour où
Don't
il découvre...
Don't literally fuck with the payroll. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites.
Jusqu'au jour où il découvre que cet homme en question, il est homosexuel aussi.
Bon! Les deux gays, il faut qu'ils soient ensemble!
Voilà! Et là, ils se mettent tous les deux dans une relation, mais ils sont diamétralement opposés. Oh. Quand il y en a un qui parle, l'autre, il comprend complètement l'inverse. Il y en a un qui parle de sa famille, il s'habille comme un sac, il a pas de style. Quand il parle de sa famille, que dans sa famille, tout le monde s'habille comme ça et autres. L'autre, il est en mode, tu veux dire que toute ta famille t'oblige à t'habiller comme un sac alors que t'es magnifique et autres. Mais dans quelle famille tu vis? T'es abusé et autres. Alors que non, il vit dans une famille tout à fait normale, avec des valeurs complètement normales, puis très gentilles et tout. Et c'est là, la, comment dire, le décalage entre les deux pensées qui sont dans des extrêmes différents qui font que t'es obligé de rire à tout ce qu'ils se disent tellement ça vire dans le ridicule et l'embarras et le gros n'importe quoi. C'est rocambolesque du début à la fin, ça n'a aucun sens et je passe mon temps à rire.
Et rappelle-nous le nom?
Punch Drunk Love. Love. Et le premier tome va sortir au mois de février, genre en version physique, mais en anglais seulement.
Ok. Hmm. Et toi, tu les lis en...
Je les lis en anglais aussi. Mm-hmm. Malheureusement, je parle pas coréen, donc...
Je vais t'aider si...
Mais ta maman
j'apprends.
Coréen.
J'apprends, okay. J'apprends.
Puis si je peux finir juste sur un dernier, parce que je l'ai trouvé intéressant pour autre chose. Ça s'appelle Love Me to Death. C'est sur Webtoon. C'est écrit par Toonymate. C'est aussi disponible sur leur Patreon. C'est l'histoire de Victor, qui est un nécromancien, qui est pourchassé dans sa ville parce qu'on n'aime pas les nécromanciens, qui est engagé par l'homme le plus riche en fait, de la ville pour ressusciter sa fiancée. Et au moment où il va la ressusciter, il va découvrir qu'il a un lien particulier avec elle parce qu'il est la seule personne qui peut communiquer avec elle. Et ils vont tous les trois être embarqués dans une aventure rocambolesque avec l'église qui les poursuit parce que on va pas ressusciter les morts, c'est interdit. Et qui vont être amenés à découvrir c'est quoi exactement être nécromancien et la magie. Et qui vont finir dans une relation amoureuse à trois.
Un trouble et c'est moderne.
Exactement, et c'est vraiment la beauté de leur relation qui se développe par rapport à ce qu'ils vivent et à comment ils se développent, et la magie qui est liée au fait que bah, ils sont en amour, et que plus ils sont amoureux les uns avec les autres, plus le nécromancien il devient puissant dans sa magie.
Oh.
Là, il y a la saison 1 qui vient de finir, puis la saison 2 devrait reprendre bientôt, puis j'ai vraiment hâte de voir la suite.
Ben, merci Amélie pour ces belles suggestions de lecture qui vont dans toutes les directions, fait qu'il y en a pour tous les goûts. Surtout pour Tamara qui va pouvoir pratiquer son coréen.
Yes! Yes! Ben moi, j'ai des coups de cœur 2023 de 5 médias différents. Donc, c'est vraiment les choses, les petits artefacts culturels qui m'ont gardé en vie cette année que j'aimerais partager avec vous. Donc, si on commence avec... ben en fait, j'ai déjà mentionné l'Olympus. Je vais toujours être là pour défendre l'Olympus. pour les gens qui ne savent pas, j'ai Perséphone de tatouer sur mon bras. Donc, j'aime vraiment beaucoup cette œuvre-là, mais aussi parce que c'est sensible, c'est beau, il y a de la belle représentation... Les dessins sont incroyables, le scénario est génial. Bref, allez découvrir ça sur Webtoon. Ça vaut fou la peine. Là, je pense que Rachel Smythe, elle a sorti le cinquième tome.
Oui.
Il est sorti en version imprimée. C'est très nice à recevoir. C'est un gros livre. C'est le fun de s'installer. Là.
Mais là, c'est un tome, mais c'est le cinquième tome, mais c'est le chapitre 3. Mais le,
ouais, non, ben c'est ça. C'est comme sur Webtoon, c'est séparé par chapitre parce que c'est comme l'arc narratif qu'elle décrit. C'est un chapitre. Mais les tomes sont divisés par un nombre... Je dirais pas logique, mais tu sais, comme, elle est rendue comme au chapitre 235, genre. Fait que les tomes, ils sont séparés par 25 ou 30 chapitres, je pense.
Okay.
Pour que ce soit digeste. Elle est fait aussi dans un sens que si t'arrives à la fin du tome, ben, oui, il y a un petit cliffhanger, mais c'est pas en plein milieu de l'arc narratif de comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée d'acheter le 2. Fait que non, c'est quand même très cool à lire de ce format-là. Si on reste dans le format imprimé, cette année, j'ai deux livres à vous recommander. Il y a le recueil de nouvelles autochtones Wapke sous la direction de Michel Jean. Honnêtement, quand je sais pas quoi offrir à quelqu'un, j'achète ce livre-là
okay.
parce que je trouve ça vraiment bon. Il y a une belle diversité des types de nouvelles dedans. Il y a une nouvelle de science-fiction, je ne me souviens pas c'est de qui, je ne me souviens pas du titre, mais je me souviens que j'étais comme, c'est insane. C'est juste beau, c'est absolument magnifique, donc je le recommande, Wapke, sous la direction de Michel Jean. Sinon, dans les affaires d'une de mes amies, j'ai trouvé le livre The Secret History of the Mongol Queens, qui relate la vie des descendantes de Genghis Khan. Et je pensais pas triper autant, mais damn que ces madames-là sont badass. Et oh mon Dieu, sincèrement, là, ça relate de genre de sa mère à lui jusqu'à comme les dernières genre impératrice mongole, ouais, un peu plus récente. Puis dans le fond, le gars qui a écrit ça, il était comme, ben tu sais, je faisais des recherches sur Genghis Khan. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des pages de déchirées dans un cahier quand ça disait comme, ah, oh, et bien évidemment, ce qui revient à mes filles, c'est... Puis là, il y avait rien après. Fait que là, il était comme, ben je veux découvrir ce qui vient après, tu sais, pour se rendre compte que Genghis Khan était vraiment inclusif dans les répartitions de ce qu'il donne à ses fils et ses filles. Les filles avaient un grand pouvoir au niveau de son gouvernement. Mais je vous invite vraiment à découvrir, c'était incroyable. Sinon, dans mon area of expertise, le cinéma cette année, j'ai découvert Joyride la même semaine que je suis allée voir Barbie. Si vous aimez les films, tu sais, comme ce qu'on appelle, en gros guillemets, des films de gars avec de l'humour stupide, ce que nous, les filles, on n'a jamais, parce que, tu sais, c'est pas drôle, ce genre d'humour-là pour nous autres, allez voir Joyride. Mm. C'est l'histoire d'une femme asiatique qui a été adoptée, une femme chinoise qui a été adoptée quand elle était bébé par un couple de blancs aux States. Et là, éventuellement, elle devient meilleure amie avec une autre chinoise. Et dans le cadre de son travail, elle doit aller en Chine pour booker un client, whatever. Et là-bas, ben, elle est avec sa bestie, la cousine fucking weird de sa bestie, qui s'appelle Weird Eye, je pense, même, dans le film.
Oh, je suis tombée sur un Joyride qui est un drame anglais.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
C'est un autre.
Joyride avec Ashley Park. Dans le fond, c'est ça. Elle va là-bas et... le chaos s'ensuit. Si vous aimez l'humour stupide, mais aussi très réfléchi, c'est super touchant, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a une version de WAP où on a changé les paroles de Cardi B pour certaines allusions à la culture chinoise. Je l'ai en repeat dans mon Spotify. J'étais surprise que ce soit pas dans mon top 10 cette année, tellement c'était bon.
C'est, si je me trompe pas, la meilleure amie... Attends, je vais juste aller vérifier parce que je veux pas dire de niaiserie. Ouais, c'est ça. La meilleure amie est jouée par Stéphanie Wusu? H-U-S-U?
Ça se peut.
Qui était dans Everything Everywhere All at Once. Donc, voilà.
Oui.
Et oui, Joyride, donc un film de 1h32. On n'en fait plus des bons films comme ça de 1h32.
Mm-hmm.
Un film qui est, donc je regarde juste ça vite, super bien coté sur Rotten Tomatoes. Et que vous pouvez trouver sur quelle plateforme. Vous pouvez l'écouter sur Prime Vidéo en ce moment, mais il faut le louer ou l'acheter. Il ne semble pas être disponible en ce moment.
Gratuitement, je sais. Mais si vous avez la chance de le voir, honnêtement, moi, j'attends juste... Je suis très old school, là, j'attends juste de récupérer mon DVD pour aller acheter le DVD de Joyride et l'écouter...
Ah, ben là, tu nous inviteras.
Ah, bien sûr, on se fait une soirée de ça. Et sinon, pour mon anniversaire, il y a quelques semaines, je suis allée voir Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant.
Mm-hmm.
Et je vais...
Film québécois.
Mea culpa, je suis vraiment pas une fan de films québécois.
Ben voyons donc.
Vraiment, vraiment pas. Mais la bande-annonce m'avait attirée parce que je trouvais ça funky, un film de genre québ. Et j'étais pas prête à ça. On rit, on pleure, c'est touchant. La chanson Emotion de Brenda Lee qui prend toute la place d'une scène, il la joue au complet. Et c'est juste, c'est tellement beau. C'est tellement, tu sais, comme le résumé, c'est une jeune vampire ne veut pas tuer pour pouvoir se nourrir et éventuellement elle est obligée par sa famille de le faire, se ramasse dans un groupe de thérapie de jeunes dépressifs et suicidaires et rencontre un jeune homme qui ne veut pas vivre et qui lui propose un peu subtilement de « ben si tu rencontres quelqu'un qui est prêt à donner sa vie » parce qu'elle leur dit pas qu'elle est vampire, mais elle dit juste qu'elle est obligée de faire quelque chose qu'elle a pas envie de faire pour survivre sinon elle meurt. Puis le gars comme a l'air de comme catcher de quoi qu'elle parle. Fait qu'il se propose en tant que victime et le film, c'est elle qui fait « OK, dis-moi c'est quoi ta dernière volonté? » Et là, il embarque sur cette quest-là de dernière volonté avant qu'elle lui suce tout le sang qu'il a. C'est vraiment, vraiment bon. La DOP est incroyable. Le scénario est tout en subtilité. Des fois, on n'est pas sûr. Comme il parle de trucs de vampires, c'est-tu des allusions sexuelles? C'est juste... C'est tellement drôle, c'est deux ados awkward ensemble. Bref, je le recommande absolument à tout le monde. Ça aussi, j'attends qu'il sorte en DVD.
Mais c'est une année pour le cinéma québécois au niveau des films de genre. qui a été super intéressante. Il y a énormément de films indépendants aussi qui ont eu quand même une certaine portée. Entre autres, je salue Opération Beurre de Cinoche, qui est une émission de Choc.ca qui fait la promotion du cinéma et qui met une grande, grande place pour le cinéma québécois. Mais on a eu Farador cette année, on a eu Mistral Spatial, on a eu Les Chambres Rouges, on a eu aussi donc Viking. Je pense que c'était l'année passée, Viking, que c'était sorti. Je pense que c'est novembre 2022. En tout cas, mais ça a été célébré hier, parce qu'au moment d'enregistrer, on est deux jours après le gala du cinéma québécois et Viking a tout remporté. Viking, c'est extraordinaire, là, si vous pouvez le voir, là, si vous ne l'avez pas encore vu. Un autre film, pas trop long, des 1h30. Revenez au format 1h30. Yes! Apprenez à faire des films puis à dire ce que vous avez à dire. Pas parce que c'est grave de faire des films de 3h, là, c'est pas parce que j'ai plus envie d'écouter un film de 3h, mais je suis comme 3h Titanic, OK. 3h Seigneur des Anneaux, OK. Mais il y a des affaires qui se font à 1h30 qui sont vraiment tête. Puis ça se perd, ce temps-là. Mais bref, Viking. Extraordinaire aussi, si vous l'avez pas vu. Je sais pas si tu as vu Viking.
Non.
C'est extraordinaire. des gens au Québec qui, dans le fond, c'est des Américains. Imagine, tu as des Américains qui sont sur Mars, dans la mission Viking, et on recrée dans un décor qui ressemble à genre... je pense que c'est censé être quand même aux États-Unis, là, mais ça aurait pu être tourné vraiment dans n'importe quelle zone où il y a un petit peu de sable, là, un pit de sable au Québec. Là. Et là, ils recréent à cet endroit-là avec une gang de Québécois les conditions de vie des personnes, mais dans un genre d'équivalent d'une salle paroissiale, là, mais des conditions de vie des gens qui sont sur Mars pour, en fait... dire ben vous êtes les personnes qui ont le plus matché avec leur comportement, puis on veut observer, on n'a pas accès à observer mettons avec des caméras leur comportement, mais on veut vous redonner des conditions similaires pour voir comment est-ce que vous réagissez à certains événements. Et c'est un film très intelligent justement sur les relations humaines, très drôle, mais qui parle justement de cet aspect-là de vouloir être très très loin dans le fond pour se trouver. Mais est-ce que c'est une illusion? Il n'y a pas vraiment de grande morale. C'est pas un film à morale. C'est vraiment c'est vraiment juste intelligent, tu sais, puis brillant, puis beau, puis bien fait. Puis c'est ça.
Très cool. Tu parlais de format plus court. Dans mes autres must, il y a les jeux vidéo. Donc, si vous aimez les formats courts, il y a le jeu This Bed We Made de shout-out à Low Birth Studio avec Doogie et Chloé, que je connais. This Bed We Made, vous interprétez une femme de chambre dans les années 50 dans un hôtel à Montréal sur Dorchester, ou René Lévesque pour les gens qui sont nés après, genre, 1990. C'est ça, puis c'est avec un... Tu sais, comme la trame de fond, c'est les relations LGBTQ+, et la santé mentale, parce que là, ils veulent ouvrir un asile psychiatrique sur Dorchester, à côté de l'hôtel. Puis bref, on fouille dans les bagages et on apprend la vie secrète de certaines résidentes.
Mais où peut-on jouer à ce jeu?
Ce jeu est disponible sur Steam. Il est disponible sur beaucoup de plateformes, je pense. Si, honnêtement, la première fois que j'ai joué, là, si vous prenez vraiment votre temps, ça prend un genre de 8 heures. Nous autres, on était à fond dans regarder des let's play de Nancy Drew. Alors, c'est vraiment venu satisfaire cette envie de résoudre des enquêtes. Sinon, si vous avez plus de temps, toujours sur Steam, il y a Potionomics, où est-ce que vous êtes une jeune femme qui héritait du magasin de potions de votre oncle un peu fuck all, alors qu'il a disparu. Et c'est vraiment hot parce que non seulement faut apprendre à faire des potions, faut gérer son magasin, vous pouvez le pimper pour qu'il soit cute. Il y a les relations avec les autres personnages. C'est des jeux de bargain, puis de combat, puis de manipulation. C'est vraiment hot. Vous pouvez choisir votre deck de cartes pour manipuler les gens, pour faire monter le prix de vos potions.
Oh, mais là, tu vas parler de deck de cartes, je suis vendu.
C'est incroyable. Puis vous pouvez aussi romancer les différents personnages. Il y a vraiment de tout. Alors, je vous recommande vraiment. Le visuel est magnifique tellement que j'ai vraiment le goût que ce soit... Mon prochain cosplay vient de cet univers-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Et ma dernière recommandation, on n'a pas encore abordé ce sujet-là aux Amazones. Moi, depuis la pandémie, là, très fan de K-pop. Ça l'a sauvé. Littéralement, ça m'a sorti de dépression qui était... vraiment solide. La K-pop, récemment, il y a quelques semaines, il y a l'album Rockstar de Stray Kids qui est sorti. Si vous voulez être hypé, si vous voulez pleurer, si vous voulez vous sentir fucking cool, ou juste comme... toutes les tunes sont des moods différents et elles sont toutes vraiment bonnes. Alors, je recommande chaudement l'album Rockstar de Stray Kids.
Ben, écoute, en terminant, moi aussi, j'avais des suggestions. J'en ai une gratuite. Puis c'est vraiment juste un hasard. En fait, je vais vous expliquer. En fait, c'est comme, c'est pas sorti cette année, mais je l'ai réécouté deux fois cette semaine. Parce que je voulais le montrer aux autres, parce que je pense que ça a passé sous le radar. Alors, c'est ça s'écoute en une heure et cinq à peu près. C'est une web-série qui s'appelle Le bœuf haché ou le tempeh.
Mmh.
J'ai vraiment l'impression que ça a comme eu le buzz pendant un moment donné quand c'est sorti, puis on en a plus entendu parler, mais c'est sur nouveau.ca. Donc, vous pouvez l'écouter avec des pubs. Vous pouvez le streamer sur Airplay. Puis là, les pubs, ils ont comme l'air d'avoir disparu. C'est vraiment étrange. Bref, tout ça pour dire que Le bœuf haché ou le tempeh, c'est une série sur l'anxiété généralisée dans l'absurde, mais fait avec des gens très sympathiques. C'est juste parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient dans la série. Je suis allée au théâtre la semaine passée, puis là, il y avait beaucoup d'acteurs de la série qui étaient dedans. Puis là, ça m'a donné envie de plonger dedans. Puis c'est gratuit. Plonger dans le gratuit sur nouveau.ca. Et dans malheureusement pas gratuit, mais je pense que c'est un must, puis je veux pas trop en parler parce que j'aimerais vraiment convaincre des gens de l'écouter puis de venir en parler avec moi peut-être en début de l'année prochaine. L'excellente série Inspirer, Expirer. Est-ce que vous avez écouté ça?
Nope.
Vous passez mes accès Crave, là, vous irez checker ça. Mais c'est... génial. C'est une série signée Sonia Cordeau, qu'on connaît à cause des appendices, qu'on a vu, entre autres, que j'ai vu au théâtre la semaine passée, mais ça, vous étiez peut-être pas là. Tout ça pour dire que... et qui était dans Le bœuf haché ou Le tempeh. Donc, tout est dans tout. Mais c'est une série... c'est un whodunit. On a parlé tantôt
de l'univers blanc.
De Benoît Blanc, c'était Benoît qui me revenait pas. Mais le Benoît Blanc-verse. Donc, on est dans un whodunit traditionnel, dans un univers, en fait, où est-ce que l'univers est très, très, très... c'est très absurde, c'est super drôle, c'est super bien écrit, c'est super bien joué, mais la trame de fond, c'est le traitement des femmes. Mais c'est assez gros que tu peux pas le manquer... mais ça tombe jamais dans le moralisateur, je sais pas. Il y a vraiment comme une twist à la fin qui m'a surprise, mais où est-ce qu'on couvre? C'est comme si on avait dit, moi, vous garochez le plus de concepts féministes modernes, mais ça va tellement être édulcoré dans une histoire drôle, brillamment jouée, avec Chantal Barry, a pas rapport tellement être drôle, là, ça n'a aucun sens comment être mon partenaire la cite de ce rôle-là à toutes les semaines depuis qu'on a écouté la série. C'est super bon. Quelques épisodes, je pense que c'est 6 épisodes là, à peu près, là, des demi-heures en plus. Hey, des demi-heures, on a plus ça, des demi-heures. Fait que bref, écoutez ça si vous avez Crave. Je sais pas s'il va être disponible à la télévision normale, mais pour l'instant, c'est sur les plateformes de Bell. Donc voilà. J'aimerais vraiment beaucoup que les gens l'écoutent pour venir m'en parler, mais comme on parlait en début d'émission, ça existe de moins en moins. On reste là pour les événements.
On se fait une soirée pour les écoute.
Ah, ben oui, tu viendras chez nous les écouter.
Yes. Puis, dernière proposition, là, quelque chose de gratuit sur TV5 Uni. Mm-hmm. Je disais que j'écoutais pas vraiment de produits québécois, mais si vous aimez le déjanté, il y a la série Polyvalente qui se passe dans une école secondaire qui est un whodunit. Ça chante. Il y a Joël Lejeune qui est un directeur d'école en patin à roulettes. T'as Pierre Brassard qui s'appelle Snake, puis qui fait un papa avec full tattoo. Puis c'est ça, c'est juste, il y a quelqu'un qui décède, je pense, dans l'école, et là, c'est qui a fait ça, et à chaque épisode, ça n'a pas de bon sens.
Bon, ben, on se fait un programme double, et on écoute tout ça, et on s'en reparle l'année prochaine. Nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2024?
Hey, du doux! S'il vous plaît, gang, prenez soin de vous autres, prenez le temps de respirer, d'expirer.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Prenez du temps pour vous autres, avec vos amis, avec votre famille. Comme, life is short.
Ah, vraiment.
C'est important, là.
Vraiment. Amélie?
Du repos.
Du repos?
D'apprendre soin de soi, là, dans le sens de pas se forcer, de dormir comme il faut, d'être comme, oui, du doux, mais du doux avec soi-même.
Ben, du doux avec soi-même, puis le doux d'accepter que si on s'est pas donné... Arrêtez de culpabiliser parce que vous vous donnez pas assez de doux. Tu sais, c'est niaiseux parce que c'est quelque chose qu'on répète énormément, là, il faut prendre soin de soi, puis là, vient le contraire, là, on sent mal de pas prendre assez soin de soi, mais l'important, c'est de survivre.
C'est ça.
L'important, c'est de survivre, puis pour...
prendre soin de soi, c'est pas tout le monde la même chose.
Non, si c'est pour survivre, là, t'as besoin de jouer à Disney Dreamland Valley pendant 12 heures de temps parce que c'est ça que là, tu dois faire, fais-le. Si pour comme, faut que tu restes en bobette à lire l'Or Olympus, puis de pas aller à ton party de Noël à cause de ça, fais-le. Genre, pour vrai, là, si ce que t'as besoin, là, c'est comme d'envoyer, genre, promener tout le monde puis te dire, moi, à Noël, puis en 2024, là, je sors pas puis je vais même pas aux Amazones parce qu'il faut que je prenne soin de moi, fais-le, OK? L'important, c'est de prendre soin de soi.
Yes.
Et je suis contente de vous avoir dans mes amis. Et je suis contente que vous soyez venus faire cet épisode-là avec moi aujourd'hui. Merci encore une fois, Tamara. Merci, Amélie.
Merci,
pour l'année. Et on se retrouve en 2024. Donc, en janvier 2024, au retour des fêtes de Choc.ca. Donc, autour du 9 janvier ou la semaine suivante. Et là-dessus, ben, Rim, joyeux temps des fêtes et bonne année.
Oui.
Bye.
Bye-bye.